Bonjour tout le monde. On va commencer notre cours. On est dans le cours Formation de disciples. On va couvrir ce matin la leçon 7. Et puis, je m'appelle Yannick Etier. Vous pouvez suivre le cours sur les fichiers audio sur notre site web. Vous abonner à notre liste d'envoi aussi pour recevoir les notes. Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière. Éternel notre Dieu, merci pour cette belle journée de printemps, Seigneur, le soleil à l'extérieur. Merci, Père, pour ce privilège de s'assembler en Église ce matin, pour t'adorer, pour te célébrer, pour plonger les regards dans ta parole, Seigneur, pour élever nos louanges à toi. Seigneur, tu es digne que nous soyons ici pour te célébrer, pour t'élever, Seigneur. Père, je te prie de nous apprendre à nous investir dans les vies les uns des autres, de nous engager, Seigneur, dans la formation de disciples, de ne pas avoir peur de faire ces pas en avant pour entrer dans ces relations qui sont souvent complexes, mais, Seigneur, tellement encourageantes lorsqu'on voit des frères et sœurs grandir en toi. Alors, je te prie, Seigneur, de bénir cette rencontre. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, ce matin, on parle du déroulement des rencontres. Je pense qu'il n'y a personne ici ce matin qui a déjà été en formation de disciples avec moi, donc c'est heureux. Vous ne serez pas là pour dire que je ne fais jamais ce que j'enseigne dans cette leçon-là. Non, mais je vais m'expliquer. Qu'est-ce qu'on cherche lorsqu'on fait de la formation disciple? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on désire lorsqu'on s'investit comme ça dans la vie des gens? On veut voir des changements. On veut voir des vies changer. On veut voir les gens grandir. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on désire. On est là pour les voir grandir. Puis en fait, s'ils grandissent, on est toujours encouragés. Puis si à un certain moment donné, ils arrêtent d'avancer, au moins à nos yeux, bien là, c'est décourageant, là, c'est difficile. S'ils retombent dans des péchés ou si leur passion pour Dieu diminue, ça peut nous affecter, nous décourager. Ce qu'on cherche lorsqu'on fait la formation de disciples, c'est de voir les gens grandir à l'image de Jésus-Christ. C'est vraiment ça, n'est-ce pas? C'est ça qu'on désire. Et pour cet objectif-là, pour atteindre cet objectif-là, la préparation pour les rencontres est super importante. Puis ce qui se passe dans la rencontre, c'est super important. C'est très facile de faire des rencontres, puis d'aller un peu sur les sujets du moment, tout ça, puis que ça devienne finalement des conversations, ça devienne des discussions uniquement. C'est très, très facile de glisser là. Et donc, la préparation est super importante, avoir une idée où est-ce que je m'en vais lorsque je vais faire les rencontres. Ce que je vais vous apporter ce matin, là, pour de vrai, là, tantôt j'avais peut-être l'air de faire des blagues, mais en même temps, j'étais sérieux. S'il y avait des gens ici qui ont déjà été sous mon ministère, auraient déjà été sous mon ministère lorsque je fais de la formation disciple, en lisant, j'ai même écrit à Annie, j'ai dit « Ris pas lorsque tu vas lire le contenu de la leçon », je donne un plan très, très détaillé. Comment vous faites une rencontre de 2 heures, puis qu'est-ce qui devrait être le contenu, puis combien de temps on va y consacrer. Et pour de vrai, ceux qui sont avec moi vous diraient, il y en a qui ne font jamais ça dans la formation d'ici. D'accord? Et c'est vrai, je m'en confesse. Mais je vous dirais que ça fait des années que je fais de la formation d'ici. Et donc, je me suis approprié moi-même l'approche, puis je l'ai adaptée pour comment moi je suis confortable de travailler, puis comment j'arrive à fonctionner. Alors, lorsque je me préparais à enseigner cette leçon-là, mon dilemme, c'était, est-ce que je leur dis, non, faites pas ça, ça marche pas, ou est-ce que je leur dis, commencez par là? Et donc, c'est ça ma réponse. C'est que vous êtes mieux de commencer avec quelque chose de beaucoup plus formel dans votre approche, puis l'adapter progressivement au fur et à mesure que vous faites la main. D'accord? Hier, puis avant-hier, on avait une conférence solo à Québec, et puis on a fait la route, j'ai fait la route avec 2 gars que je coach. Donc, en montant, on a fait à peu près un gros 2 heures de coaching. Puis en revenant, le samedi, on a refait un autre 2 heures de coaching. Il n'y avait pas de plan écrit. Mais si vous demandez aux gars qui étaient avec moi, on a fait du coaching. En tout cas, les gars qui se faisaient coacher, eux autres, ils se faisaient coacher. Puis on avait un plan dans ma tête. Puis les choses que je poursuis là-dedans, la majorité d'entre elles, on les a faites. D'accord? Alors, c'est simplement pour dire ce qu'on va voir ensemble ce matin. La véritable valeur de ça, c'est dans les principes qui sont présents. D'accord? Mais en même temps, si vous commencez à vous investir dans de la formation de disciples, il y a aussi une véritable valeur à être beaucoup plus formel que passé. Puis après ça, on s'adapte au fur et à mesure qu'on coache une fois, deux fois, trois fois. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le changement. On cherche à voir les gens grandir. Et ça, ça nous demande d'avoir un plan de travail. Mais en réalité, la rencontre commence bien avant la rencontre. Et donc, le temps entre les moments où on se rencontre est super important. Si vous décidez d'embarquer dans de la formation disciple, je vous dirais, si vous prévoyez une rencontre aux deux semaines, vous allez passer deux heures ensemble, il faut prévoir au moins une demi-heure, 45 minutes entre les rencontres de travail pour vous. Parce que vous allez avoir un peu de travail à faire avant, juste pour préparer la rencontre, réfléchir où est-ce que vous en allez. Vous avez un peu de travail à faire après la rencontre, comme le plus immédiatement possible après la rencontre. Puis, au fur et à mesure, soit au fil des années, vous allez réaliser que vous avez du temps à mettre dans la prière aussi, entre les rencontres. Vous devez prier pour ces gens-là, puis vous devez vous investir à penser à eux, puis à voir où est-ce qu'ils s'en vont. Fait, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme préparation avant? Puis je vais les commenter dans le fond parce que c'est assez simple, mais je vais plutôt développer en les traversant ensemble. Parce que ce qu'on cherche, c'est du changement. En réalité, dans la rencontre même, on va enseigner. À travers nos discussions, nos partages, on va enseigner. On va aider les personnes à voir des choses dans leur vie. Mais une fois qu'ils ont ça, c'est pour aller le mettre en action. C'est pour aller le mettre en œuvre. C'est ça l'idée. C'est, ils voient des choses, ils apprennent des choses, réalisent des choses sur eux-mêmes. Puis après ça, ils doivent les mettre en œuvre. Fait que si je prends ce qu'on a vécu là, moi, dans mon voyage à Québec puis mon retour, dans la conversation, c'est clair qu'il y avait des lumières qui s'allumaient. C'est clair qu'il y avait des choses qui se saisissaient, qui se comprenaient. Maintenant, si ça s'arrête là, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et donc, tu ne fais pas du coaching sans donner des devoirs, puis sans en avoir toi-même, soit en préparation, soit en suivi, soit en encouragement. Donc, lorsque je suis en train de me préparer pour mon coaching, je dois aller voir où est-ce que j'en suis dans mes engagements. Ça fait, par exemple, lorsqu'on pense à la redevabilité, être redevable, c'est-à-dire que quelqu'un s'engage à travailler n'importe quoi, sa vie de prière, son temps avec Dieu, sa pureté personnelle, ses relations avec quelqu'un, peu importe. La redevabilité, si c'est juste lorsqu'on se rencontre, souvent ça a peu d'impact. En général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire « Ok, je te donne un coup de fil la semaine prochaine » ou « Tu m'envoies un petit courriel » puis on s'en parle, tout ça. Parce que la redevabilité, c'est un encouragement. C'est ça qu'on cherche à faire principalement à travers la redevabilité. Donc, en général, entre les rencontres, il va y avoir un suivi qui va se faire. Fait que si on est en train de faire de la formation à 3-4, bien, ça se peut que je demande à Marc de donner un coup de fil à Martin, puis que dans le fond, ils soient redevables ensemble. C'est pas nécessairement toute la gang. On va le faire lorsqu'on va se voir, mais je vais leur demander à eux de faire un suivi ensemble. Puis moi, personnellement, ça fait, je le mentionne souvent, mais ça fait une dizaine d'années que je fais deux retraites par année avec deux amis qui sont pasteurs. Puis on est redevables sur des choses les uns envers les autres. D'accord? Si on fait pas de suivi entre, souvent ça évolue pas. Souvent ça bouge pas. Parce que si je viens à toi et je te dis, regarde, j'ai besoin d'être redevable, c'est parce que j'ai besoin d'encouragement. Autrement, c'est une conversation, puis dans la conversation, j'apprends ce que j'ai à apprendre, puis c'est beau, je te rappelle si j'ai besoin, mais je suis parti avec ça. Mais si je te dis, j'ai besoin d'être redevable là-dessus, ça veut dire que j'ai besoin d'être encouragé. Est-ce que vous me suivez sur ça? La redevabilité, ça, si c'est juste, on se voit comment ça a été, puis que ces nouvelles-là sont trop sporadiques, c'est plus de la confession que de la redevabilité. D'accord? La redevabilité, c'est je vais rendre des comptes régulièrement, je vais avoir une parole d'encouragement que je vais recevoir à persévérer dans ce que je veux travailler. Et donc, ça veut dire que vous allez probablement, à travers le coaching, avoir des suivis à faire, des gens à téléphoner, envoyer un petit texto. Puis ça fait une grosse différence. Ça a l'air d'une béquille, peut-être, au départ, mais en réalité, c'est une parole d'encouragement. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ça veut dire que si je m'engage à suivre quelqu'un, à la relancer la semaine où on ne se voit pas, mon rôle est super important. Ce n'est pas un rôle négligeable. Il y a des gens, personnellement, avec qui je me suis engagé à être redevable, puis ces gens-là ne prenaient pas leur rôle au sérieux. Il y a des gens envers qui je me suis engagé à être redevable, qui ne m'ont jamais relancé. Puis à un moment donné, j'ai vu qu'ils n'étaient pas sérieux. Je ne les ai même jamais relancés là-dessus. Probablement qu'ils l'ont sur leur conscience. Puis à un moment donné, ils vont me dire, « Hey, tu sais, Yannick, il y a une dizaine d'années, on s'est engagé. Je suis désolé, je ne me suis pas occupé de ça. » Je sais, c'est correct. Mais ce n'est pas avec eux autres que j'ai continué. Parce qu'ils ne comprenaient pas l'importance de leur rôle. D'accord? Entre les rencontres, ça se peut que vous ayez des choses à aller regarder, des passages à aller étudier, des réponses à aller chercher. Ça se peut qu'il y ait une conversation qui a commencé, puis vous voulez réfléchir, puis dire, OK, où est-ce qu'on s'en va dans cette conversation-là? Par exemple, dans le coaching que j'ai fait en fin de semaine, il y a des lumières qui se sont allumées, j'ai donné des pistes, mais dans le fond, fait que j'ai donné des devoirs, puis à travers ces devoirs-là, je suis en train comme d'apprendre à connaître la personne, connaître son cœur, connaître sa réponse. Je suis en train d'observer. Fait qu'entre les rencontres, je peux réfléchir à ça, puis dire, OK, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Donc, faire le suivi de mes engagements, faire le suivi des engagements des autres. Fait que des fois, au début, lorsqu'on est en train d'installer le coaching, surtout au début, lorsqu'on commence, là, puis on dit, OK, pour dans 2 semaines, tu vas avoir fait ça. C'est profitable d'envoyer un courriel quelques jours avant et dire, as-tu fait tes devoirs? Si tu n'as pas fait tes devoirs, peut-être qu'on devrait reporter le coaching. Pardon? Non, si tu n'as pas fait tes devoirs, peut-être qu'on devrait juste remettre ça dans 2 semaines. La personne a dit, non, mais c'est important, je veux qu'on se voit. Mais fais tes devoirs, on va se voir, parce qu'autrement, on n'aura pas de contenu pour avancer. D'accord? Fait que c'est ça que je parle quand je parle du suivi entre les rencontres, parce qu'on veut installer une espèce de discipline ensemble où on avance puis on sait où on s'en va. Alors, pour ceux qui se joignent à nous, on est en train de regarder dans la leçon 7 comment on se prépare à une rencontre de coaching, comment ça se déroule parfaitement avec minutie. Tantôt, je vais commenter un petit peu ça. Deuxièmement, j'examine mon cœur. Quand vous pensez à de la formation de disciples, si vous avez eu des enfants, pensez à élever vos enfants. Ça travaille le cœur en sirop. Il y a des moments où tu es découragé, il y a des moments où tu dis « mais j'y arriverai pas », il y a des moments où tu as le goût de te retirer, il y a des moments où tu es encouragé, tu vois des progrès, puis là tu rêves le meilleur, d'accord? Donc, il y a « c'est quoi ma relation avec l'autre, comment je me sens par rapport à l'autre? » Mais après ça, il y a mon cœur à moi aussi. Parce que comme parent, si je reste avec cette image-là, comme parent, je sais que si mon cœur à moi est tout croche, ça va transparaître à quelque part. Fait que si vous embarquez dans le coaching, vous allez devoir examiner votre cœur à vous par rapport aux personnes que vous êtes en train de coacher. Est-ce que vous êtes en train de décrocher? Est-ce que vous croyez encore que Dieu va faire des grandes choses dans leur vie? Est-ce que vous êtes irrité? Est-ce que vous avez été offensé par leur attitude ou des choses comme ça, où vous êtes un peu comme frustré de voir qu'ils ne mettent pas les efforts que vous attendiez. Puis honnêtement, je vis toutes sortes d'émotions par rapport aux gens que je coach. Là. Actuellement, je coach 6 leaders ou leaders en formation. J'ai 3 groupes de 2 gars avec moi, donc on est 3x3. Puis j'ai des émotions par rapport à ces coachings-là. Puis je dois être attentif à ce qui se passe dans mon cœur. Je dois examiner. Il y en a qui méritent. Ça me frustre. J'ai le goût de leur parler dans le caisseur puis d'essayer de leur replacer la tête comme du monde. Vous comprenez? Mais il faut que j'examine qu'est-ce qui se passe dans mon cœur parce que quand je vais arriver, ça va être là, là. Donc, j'ai besoin d'aller examiner ça puis j'ai besoin d'examiner ma vie à moi. Dans le sens que si ma vie chrétienne à moi, si ma marche chrétienne ne va pas, je vais apporter ça aussi dans le coaching. Je n'aurai pas la foi pour challenger. Je n'oserai pas adresser le péché comme il faut. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. C'est d'examiner mon cœur. Où est-ce que je suis actuellement? Ça me demande du temps pour faire ça. Lire, étudier la Bible s'il y a des sujets qui ont été abordés. Je n'ai pas toutes les réponses, ça, ce n'est pas un problème, mais je désire aller chercher des réponses. Donc, je vais moi-même aller étudier les Écritures, essayer de trouver des réponses, ou je vais donner des devoirs. Des fois, ce que je fais, c'est que je vais dire, regarde, est-ce que tu peux aller étudier ça, puis tu nous reviens là-dessus la semaine prochaine? C'est toi qui va revenir avec ça. Mais à quelque part, il faut que je puisse recevoir ce qu'il va apporter, puis l'accompagner là-dedans. Donc, des fois, je vais avoir des choses à aller étudier dans les Écritures. OK, puis le point 4, je vais le développer un petit peu plus pendant la rencontre, d'accord? Mais c'est drôle parce qu'on a eu une longue conversation hier sur... dans le cours, des fois, je vais dire, le vrai coach, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Puis quand je dis que le vrai coach, c'est le Saint-Esprit, c'est que c'est Dieu qui s'est engagé à former Christ en nous. C'est la personne, les personnes en qui je m'investis sont vraiment des enfants de Dieu. J'ai cette conviction qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Et c'est Dieu qui s'est engagé à former Christ en eux. Puis mon rôle à moi, ce n'est pas de prendre la place du Saint-Esprit. Mon rôle à moi, c'est de les accompagner. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait une espèce d'écoute de ma part, une espèce de dialogue qui s'installe. C'est comme une discussion à trois, où j'essaie de voir qu'est-ce que l'Esprit est en train de faire dans sa vie, qu'est-ce que lui comprend de ce que l'Esprit est en train de faire dans sa vie, puis j'essaie, moi, d'accompagner tout ça. Donc, des fois, ça me demande de prendre du temps pour prier, pour réfléchir. On a des thèmes dans nos vies, des combats récurrents qui reviennent, une histoire. Fait que dans deux des groupes où je coach, il y a des personnes que je commence à peine à coacher. Je les connais pas assez. Il y a d'autres personnes, comme admettons Oscar, qui est à l'église, ça fait des années. Fait que souvent, je sais très bien d'où il vient, où il s'en va, je le lis facilement. D'autres fois, non. Mais je connais son histoire, je connais les grands thèmes, les choses que Dieu adresse depuis des années. Vous comprenez? Donc, ça peut me demander à moi de prier pour pouvoir réfléchir à ces choses-là, puis dire, OK, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Qu'est-ce que Dieu est en train d'adresser dans sa vie? Qu'est-ce que moi, je vois? Après, lorsque j'arrive dans le coaching, je vais encore être en train d'écouter pour voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais j'ai réfléchi, j'ai prié à ça, sur ça avant. Fait que, par exemple, en fin de semaine, ben là, j'avais comme deux coachings back-à-back. On a fait une partie en montant, puis on a fait une autre partie en redescendant, en revenant de Québec. Mais littéralement, entre les deux, je l'ai partagé à un moment donné lorsqu'on s'en venait de Québec. J'ai dit, hier soir, j'étais en train de penser à ça, puis je priais, puis j'ai fait suite. J'ai fait un suivi sur ça. D'accord? Mais entre les deux, ça continue à me revenir en tête, puis je dis, OK, je pense qu'on va commencer là. Je pense qu'on va aborder ça ici. D'accord? Maintenant, je vous avertis, si vous avez jamais fait de coaching, souvent, vous allez quitter des rencontres de coaching, puis vous allez voir plus de questions. C'est plus stressant, parce que vous partez plutôt en disant, « Seigneur, j'ai aucune idée où on s'en va face à cette situation-là. J'ai pas les réponses. Le manque d'expérience peut faire que j'ai pas les réponses. Je ne sais pas comment l'adresser. » Bon, peut-être qu'il faut aller chercher des réponses. Alors, si vous avez été coaché, vous pouvez parler à la personne qui vous a coaché, qui vous suit. Souvent, Oscar m'arrive, il dit, « OK, Yannick, je m'en vais avec ça, là. » Il a commencé à réfléchir, il a fait ses devoirs, mais il n'a pas trouvé toutes les réponses. Là, il vient, puis je donne d'autres pistes. Ça ne veut pas dire que j'ai des réponses, mais je donne des pistes. Il repart avec ça, d'accord? Mais donc, je vous le dis, au début, quand vous commencez à coacher, c'est stressant parce que tu te sens incompétent, puis tu vois qu'il y a comme soit des nœuds dans la vie de la personne, il y a des luttes avec des péchés, il y a des incompréhensions, il y a des problèmes dans sa compréhension de lui-même, dans son identité ou d'elle-même. Puis là, tu ne sais comme pas trop quoi faire avec ça. C'est correct, ce temps-là, là, prendre le temps de penser aux gens que je forme, ça se peut que je le vive avec paix, puis en train de dire, OK, on va aller par là-bas, on va faire ça. Comme ça se peut que ce soit plus angoissant, parce que je n'ai pas les réponses, mais c'est correct, je vais prendre le temps de faire ça. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Oui? Non? Ça prend du temps pour faire ça. Ça prend du temps pour prier, pour réfléchir, pour identifier les thèmes, les combats, les choses qui peuvent être difficiles. Tout à l'heure, on va parler de la prise de notes. Priez avant les rencontres, entre les rencontres pour que Dieu fasse son œuvre. Puis enfin, planifier de quoi on va parler. De quoi on va parler dans cette rencontre-là. Fait que là, je vais vous présenter, comme j'ai mentionné, un plan super détaillé que moi, je ne fais jamais. Je l'ai mentionné. Mais en même temps, si vous n'avez pas d'expérience, moi, je vous conseille de suivre un plan très détaillé, d'accord? Au départ. Après ça, vous allez vous faire la main, vous allez l'ajuster, vous allez travailler comme vous travaillez. Je vais être très transparent avec vous, je vais vous dire ce que je fais et ce que je ne fais pas. Mais essayez pas de faire ça la première fois, d'accord? J'ai quand même un plan où est-ce que je m'en vais. Fait que moi, personnellement, maintenant, la manière que je fonctionne souvent, c'est que je vais envoyer un courriel avant la rencontre. Puis je vais demander à la personne, est-ce que tu as des sujets que tu veux qu'on discute? Moi, j'ai des notes parce que le coaching, je le fais sur une durée, dans la durée, dans le temps. Souvent, ça va être 1 an, 2 ans, même des fois, si je forme des leaders, ça peut être 3 ans, 4 ans. Bien, moi, j'ai mes notes, fait que je sais, OK, on travaillait sur ça, on s'en va là, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé depuis. Puis je m'adapte aussi aux nouveaux événements qui ont pu se produire. Mais souvent, c'est comme ça que je vais construire mon plan. J'envoie un courriel la veille, je suis en train de me préparer un peu, je révise mes notes, puis je dis, as-tu des sujets que tu veux qu'on aborde? Puis là, j'ai une idée un peu où je m'en vais dans la rencontre. D'accord? Mais donc, je planifie quand même mon temps. J'ai quand même des objectifs à travers la rencontre que je veux atteindre. On va regarder un plan ici, très, très, très détaillé. Comme je vous dis, honnêtement, je l'ai fait, je pense, dans ma première triade de coaching. Je l'ai fait peut-être pour la moitié, puis après ça, j'ai comme, ça ne marchait pas. Mais en même temps, quand j'ai commencé vraiment à faire du coaching plus formel comme ça, j'avais probablement déjà coaché 7-8 gars. D'accord? Fait que j'étais capable un petit peu plus de faire du freestyle. Oui. Oui, vas-y. Oui. Oui, absolument. Ouais.
Ça a viré fou parce que là, on parle de. Quelqu'un commence à parler, puis là, tu checkes ta montre, puis là, tu capotes. Ouais. Que là, parce que tu arrêtes de pleurer, parce que, tu sais, il faut passer à d'autres choses.
Fini la confession, on va passer maintenant à l'agenda.
C'est juste que il faut réaliser que ça, c'est un
plan. C'est un plan. C'est ça. C'est un plan, c'est un guideline, puis après ça, on s'adapte lorsqu'on est en train de le faire. Puis effectivement. Comme on est en train de faire le cours, certains d'entre vous, vous allez commencer à faire du coaching après. Il y a du support qui vient après. On en parlera plus loin, là, mais on fait des rencontres de débogage, là, puis c'est super profitable. C'est vraiment du débogage qu'on fait. Puis c'est ça qui sortait au début. C'est parce que là, Yannick, ça marche vraiment pas ton affaire. C'est comme, ça nous prend 4 heures à faire ton plan si on veut tout faire, parce qu'il y a plein d'affaires qui prennent plus de temps. Tu sais. Alors c'est vrai, c'est un plan, c'est un guide qu'on se donne. Temps de partage. Le temps de partage, il est important, puis en même temps, il ne faut pas qu'il prenne beaucoup de place. Mais il est important pour une raison, c'est que j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne depuis la dernière rencontre, parce que comme j'ai dit, ce n'est pas moi vraiment le coach. C'est Dieu qui est le coach. Fait que si Dieu a soulevé quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne suis pas dans un cours, je suis en train de faire du coaching. Quand je suis dans un cours, moi je suis dans un cours, ici là on est dans un cours, je ne fais pas du coaching, on est dans un cours, j'ai des leçons à traverser, il faut que je passe à travers mes leçons. Ce n'est pas un vrai dialogue qu'on a ensemble, je réponds à des questions, mais on n'est pas en train de dialoguer ensemble. Quand je suis en train de faire du coaching, j'accompagne quelqu'un, puis mon objectif à moi, c'est que cette personne-là grandisse dans sa relation avec Dieu, puis qu'elle devienne en quelque sorte autonome, dans le sens que, à un certain moment donné, elle comprend c'est quoi grandir, puis elle apprend à aller chercher elle-même ses ressources dans l'Église pour grandir. Fait que cette personne-là, le Saint-Esprit, puis la vie normale de l'Église, qui n'est pas nécessairement du coaching de 2 heures à toutes les 2 semaines pendant toute ta vie, sans ce coaching-là, cette personne-là, cette maturité-là, d'écouter ce que Dieu est en train de travailler dans sa vie, d'aller chercher des ressources, d'avoir des cercles où elle est plus naturellement redevable, puis des choses comme ça. Ça, c'est ce que je poursuis. Pour aller là, pour me rendre là, mais même ces petits temps-là au début sont importants. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Bon, ça peut facilement juste devenir, tu sais, puis comment ça a été ta semaine, tu sais, puis il n'y a pas comme d'objectif spirituel. Si vraiment vous voulez comme faire du chit-chat, arrivez plus tôt, prenez un café ensemble, donnez-vous 1 heure pour faire ça si ça vous tente, puis à un moment donné, vous dites, on commence. Ce que je cherche dans ce temps de partage-là, c'est est-ce que Dieu met quelque chose d'autre sur la table? Est-ce que Dieu a mis quelque chose d'autre sur la table depuis qu'on s'est vu? C'est vraiment ça que je suis à la recherche. D'accord? C'est quoi ton mood? Comment est-ce que tu files? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu arrives découragé? Puis si on fait juste suivre notre programme, je vais juste comme te faire du mal parce que dans le fond, il faudrait adresser ça. D'accord? Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Temps de prière, de confession. Alors ici, je me suis mis une petite note. La place où vous décidez de faire du coaching va déterminer si vous priez ou non. Parce que si vous faites du coaching tout le temps dans un restaurant, ce qui est mon problème, des fois, là, j'ai pris une plage qui est le matin pour certains coachings, puis c'est des déjeuners, puis on est dans un restaurant. Bien, on ne prie pas pendant 25 minutes dans un restaurant. Fait que l'endroit où vous décidez de faire le coaching va déterminer si vous priez ou non. C'est important de prier ensemble. C'est important de le faire, c'est important de le faire au début. La prière, c'est un élément super important de la marche spirituelle, de la croissance, puis cette capacité-là pour prier avec d'autres, puis s'écouter les uns les autres prier, s'enseigner à travers la prière, c'est super important. d'être capable de confesser ensemble dans la prière. Fait que c'est important que dans vos rencontres de coaching, il y ait un temps où vous priez. Ce temps-là sert à adorer, à intercéder, à confesser. Fait que j'aime bien le faire au début de la rencontre. Des fois, on le fait à la fin de la rencontre. Mais c'est libre. Puis, on fait juste apprendre en s'écoutant puis en priant ensemble. Et encore une fois, comme j'ai dit plus tôt, ben si c'est assez superficiel ce qui sort, ou tu sais, c'est très centré sur Dieu, mais il n'y a pas beaucoup de confession, il n'y a pas beaucoup d'ouverture, ben il faut que vous donniez l'exemple. Fait que moi, j'ai toujours un péché à confesser dans ma poche en arrière, tout le temps. J'ai beaucoup d'options de toute façon, j'ai toutes sortes de choix, mais j'en ai toujours un de prêt. Je suis sérieux, là, quand je commence un coaching, j'ai déjà ma confession qui est prête, d'accord? Elle va sortir soit dans la prière, soit dans la discussion, soit dans les deux, mais je le fais tout le temps. C'est volontaire. J'ai déjà réglé mes affaires avec Dieu, mais je veux le faire parce que je veux leur enseigner ça. Je ne vous poserai pas la question pour ne pas vous mettre en boîte, mais si je posais la question ici ce matin, qui a confessé un péché à un frère? Ben, répondez pas là. Qui a confessé un péché à un frère ou à une sœur? Pas à Dieu, à un frère ou à une sœur. Dans les 7 derniers jours. Vous seriez surpris de voir qu'il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Puis pourtant, la confession entre frères et sœurs dans les Écritures, c'est super clair. Puis il y a plusieurs raisons pour lesquelles on le fait. C'est parce que j'ai besoin d'entendre dans mon cœur que Dieu me pardonne. J'ai besoin d'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre que Dieu me pardonne. Vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? Oui. Oui.
Moi, j'ai une question aussi.
Oui, c'est une bonne question. Est-ce que c'est vraiment important de confesser un péché à quelqu'un d'autre? Pas pour être pardonné. J'ai pas besoin de je passe pas au confessionnal, d'accord? Donc, c'est pas le confessionnal catholique. C'est pas ça du tout. C'est Dieu qui me pardonne, puis je peux régler ça seul avec le Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie communautaire. La vie chrétienne, c'est une vie communautaire. C'est une vie qui se vit ensemble. On grandit ensemble. On s'encourage les uns les autres ensemble. On confesse nos péchés les uns aux autres. Super clair dans le Nouveau Testament. Donc, oui, c'est important, pas pour que Dieu me pardonne. C'est important pour que je grandisse. Parce qu'on grandit ensemble. Lorsque je confesse mon péché, fait que par exemple, je vous dis... Je le fais aussi dans le cadre de mes retraites avec mes deux amis pasteurs. Puis bon, ben eux, ça fait 10 ans qu'on fait ça ensemble. Fait que je suis... ils connaissent tout, d'accord? Ils savent tout. Puis mon épouse a dit, tu peux tout mettre sur la table, j'ai sa bénédiction. Fait que ils connaissent tout, d'accord? Des fois, il y a des affaires avec lesquelles je peux lutter longtemps. Puis j'ai besoin de leur confesser pour plusieurs raisons. J'ai besoin d'être redevable. J'ai besoin qu'ils me confrontent si... Je me confesse, mais dans le fond, il n'y a pas une véritable repentance. Mais j'ai besoin d'entendre l'Évangile aussi, parce qu'à un moment donné, je confesse plus à Dieu parce que je ne crois plus à la possibilité de marcher avec Dieu. Et le simple fait que je doive aller confesser à un frère lui donne l'opportunité à lui de me prêcher l'Évangile encore une fois. Et donc, si je vis tout ça juste moi personnellement, je vous dirais que c'est le fruit d'une société individualiste et ce n'est pas le modèle que je vois dans le Nouveau Testament. Maintenant, je ne vais pas confesser un frère pour que Dieu me pardonne. Mais j'irai jusqu'à dire, je vais confesser un frère pour que Dieu me relève. Parce que ce qui se passe là fait partie de ma croissance, que je vais me relever, je vais entendre encore une fois l'Évangile. Et si ça ne fait pas partie de votre vie, vous êtes marié, vous ne confessez pas entre époux des péchés, si vous n'êtes pas dans un groupe, dans un petit groupe, vous allez confesser des péchés, si ça ne fait pas partie de votre vie, il manque un morceau important pour votre sanctification, votre croissance spirituelle. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ça? Oui, Clotilde, puis après Sani. Oui. Je vais répéter, mais vas-y Clotilde. C'est une bonne question, oui. Bonne question. Clotilde demande, est-ce que je vais décider à qui je vais confesser en considérant sa maturité définitivement? Par exemple, je vous dis, moi je confesse toujours des péchés. Alors là, vous comprenez que c'est le pasteur qui, dans ses qualifications, doit être irréprochable, qui confesse des péchés. Moi, je confesse ça à des gars. La personne qui est devant moi, ça va déterminer jusqu'où je m'en vais dans mes détails, dans l'information que je lui donne. Je ne vais pas être une pierre d'achoppement pour lui. Si la personne est faible, par exemple, je prêchais dans Romains 14 vendredi soir, si la personne est faible telle que Paul le définit dans Romains 14, d'accord? C'est quelqu'un qui dit, un chrétien, ben ça devrait peut-être pas faire ça, ça devrait peut-être pas faire ça, ça devrait peut-être pas faire ça, d'accord? Ben si je trouve qu'hier soir j'ai pris une coupe de vin de trop, j'irai peut-être pas le confesser à celui qui pense qu'un chrétien devrait jamais toucher à une goutte d'alcool. Comprenez? Parce que son remède est simple. Tu devrais jamais toucher à une goutte d'alcool. Comme ça, tu feras jamais un excès. Tu sais? Bon, fait que oui, je vais considérer à qui est-ce que je vais confesser mon péché pour qu'il puisse me prêcher l'Évangile, pas la loi. D'accord? Qu'il puisse m'accompagner. Et donc, c'est important d'avoir ces relations-là avec des gens matures. Où on va le faire. Mais en même temps, je vais confesser mon péché. Puis ça se peut que la personne manque dans la manière qu'elle va recevoir ça puis qu'elle va prendre soin de moi. C'est possible qu'elle le fasse. Qu'est-ce que je vais faire? Alors moi, je ne fais plus ça. Je l'ai déjà fait. Si tu savais ce qui s'est passé. Oui, je comprends. C'est comme ça qu'on abandonne l'église locale. J'étais déçu dans l'église locale, ça n'a pas fonctionné, j'ai été blessé. Les pasteurs, ils n'étaient pas parfaits, les gens n'étaient pas parfaits, puis moi, je l'étais quasiment, fait que ça ne marchait pas tellement bien, fait que j'ai quitté l'église locale. Comprenez? Fait que il faut que j'aie le courage d'aller me placer sous le ministère de gens aussi imparfaits que moi. Je vais les choisir, c'est vrai. Je ne ferai pas exprès pour aller me mettre dans une situation où la personne ne saura pas comment m'accompagner, ne saura pas comment m'aider. D'accord? Mais en même temps, je ne veux pas arriver à l'endroit. Je ne veux pas arriver à l'endroit où, écoute, confession, c'est quelque chose où tu te rends vulnérable. Fait que moi, j'ai deux amis chrétiens, c'est les deux personnes de confiance à qui je confesse. Puis je confesse à personne d'autre. Si c'est ça ta vision de la vie chrétienne, tu n'as pas compris c'est quoi l'Église locale. La confession, c'est quelque chose qui se fait plus ouvertement que je vais faire dans un petit groupe. Mais encore une fois, dans un petit groupe. Le groupe est mixte. Les gars, comment, ne confessez pas n'importe quoi, là. Gardez ça pour une rencontre avec des gars, tu sais. Fait que je vais le faire avec discernement. Mais quand j'ai quelqu'un qui me dit, ah, moi, tu sais, j'ai des gens de confiance à qui je parle, tu sais, parce que, tu sais, des fois, j'entends beaucoup de choses dans ça. J'ai peur que la personne fasse des erreurs. C'est ça. Fait que, il y a juste les chrétiens qui ne font pas des erreurs qui peuvent avoir un ministère envers toi. Ça n'en laisse pas beaucoup, ça, tu sais. Tu vas finir seul avec toi-même. Puis, à un moment donné, tu vas peut-être quitter l'église locale aussi. Fait qu'il faut avoir le courage d'accepter que Dieu se sert de gens imparfaits pour me faire grandir. Et hier, lorsqu'on était en train de parler, de faire le coaching, on revenait sur des quads puis des triades de coaching qu'il y avait eu dans l'église, où on se disait, wouf, c'était pas comme un super match, là. Il y avait un peu un manque de sagesse dans le pairage qui s'est fait là, puis ça a donné quelque chose qui était difficile. Fait qu'on a pris le temps de discuter de ça. Okay? Donc, dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui pourrait dire, ben, je me suis confessé à quelqu'un qui n'était pas assez mature pour entendre ma confession. Admettons, puisque la triade n'était peut-être pas super bien ficelée ensemble. Mais à la fin de cette conversation-là, j'ai quand même pris le temps de dire, attends un petit peu, le vrai coach, c'est le Saint-Esprit. Dieu travaille à former Christ en nous à travers les épreuves, même les épreuves des frères qui ne sont pas très bons quand ils prennent soin de nous. C'est ça l'Église, là. Si j'accepte pas ça, je comprends pas c'est quoi l'Église. D'accord? Donc oui, on se blesse les uns les autres, parfois, en voulant bien faire, en voulant prendre soin les uns des autres. Puis si ma réponse à ça, c'est de me retirer pour un temps, puis aller prier, puis régler ça dans mon cœur, revenir, pas de problème. Mais c'est de me retirer. On me reprendra pas deux fois à m'exposer comme ça. Ça marche pas. Éventuellement, tu vas tenir le même discours envers Dieu. C'est ça qui va se passer. Ça va se manifester par « Non, moi, je ne sers plus là-dedans » ou « Moi, je ne fais plus ça ». C'est ça qui va se passer. Fait que je choisis à qui je confesse parce que je veux vraiment quand même être sage dans ça, mais ce n'est pas une sagesse qui est nourrie par la peur. J'ai le courage de dire « Bien, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va mal me recevoir puis je venais confesser mon péché, il faut que j'y pardonne en plus. » Tu sais. Hein, oui, on est en route pour ressembler à Jésus. Oui, Annie.
En fait,
Oui. Moi, ça, c'est demander pardon pour restaurer. Oui. Oh, on n'est pas en train de parler de Matthieu, c'est pas Matthieu 18, là. Mais si tu as péché contre quelqu'un, tu vas aller réparer, tu vas aller demander pardon, tout ça. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler de la relation avec les frères. Puis je vais juste confesser mon péché, comme Jean l'a dit. Confessez vos péchés les uns aux autres. T'sais. C'est dans ce sens-là. Caro.
Je voulais savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé de coacher un huître? Qu'est-ce que tu fais quand tu coaches quelqu'un qui, malgré tous les encouragements, demeure un huître, qu'on ne peut pas aller en profondeur, et elle tente pas en profondeur?
C'est une bonne question. Caro demande, est-ce que ça m'est déjà arrivé de coacher une huître? Il y a des huîtres, hein? Il y a toutes sortes d'espèces dans l'Église. Puis qu'est-ce que tu fais si la personne n'est pas capable de s'ouvrir? Moi, j'ai marié une huître qui a fait des huîtres aussi. Mais moi, j'en suis pas une. Fait que, moi, tu pèses sur le bon bouton, puis pff, ça sort, tu croches, mais ça sort. Tu sais? Fait que ma fille me ressemble, puis mon gars ressemble à ma femme. Fait que qu'est-ce que tu fais quand tu veux... Désolé, la famille, vous êtes exposés encore. Mais... qu'est-ce que tu fais quand tu veux coacher quelqu'un qui est justement comme plus tu pousses, plus elle se ferme? Ben, t'apprends à flatter. C'est ça que t'apprends. T'apprends à vivre avec le silence. T'apprends à fonctionner dans le temps. Pour moi, c'est difficile. Moi, j'ai tendance à être colérique, tu sais. Puis, je veux dire, si tu veux que j'avance, donne-moi une tape sur le nez, puis OK, c'est beau, t'as mon attention, qu'est-ce que tu voulais me dire? Fait que ça marche avec moi. Avec d'autres, tu fais ça, puis c'est fini, là, tu sais, ils se sont retirés. Fait que, mais j'ai appris avec le temps à fonctionner avec le silence, à vivre avec le silence. Ces gens-là ont besoin d'un espace particulier pour s'ouvrir. Des fois, ils ont besoin d'être exhortés. Des fois, ils ont besoin d'être confrontés. Maintenant, je reviens au début lorsqu'on disait quand je vais choisir qui je vais coacher, d'accord? J'ai certains critères qui sont là. Et il y a des gens qui n'ont pas décidé qu'ils allaient s'ouvrir. Moi, je n'embarque pas dans du coaching avec quelqu'un qui n'a pas décidé qu'il va s'ouvrir. Donc, c'est pour ça. Si vous vous rappelez, dans l'engagement au début du coaching, il y avait des choses qui étaient claires juste là. Donc, il y avait des choses qui étaient claires dans l'engagement au départ, puis l'engagement, c'est je m'engage à être transparent. Pour une personne, ça veut dire une chose, pour une autre personne, ça veut dire d'autres choses. Pour une huître, ça n'a pas de l'air très transparent pour quelqu'un comme moi, d'accord? Mais si la personne s'est engagée, on est de bonne foi dans cette marche-là ensemble. Alors, si la personne n'est pas prête à s'engager à ça, vous ne pouvez pas faire du coaching. Vous pouvez faire de l'enseignement. Tu sais? Fait que tu peux dire, viens t'asseoir dans ma classe, je vais t'enseigner, puisqu'il n'y a pas de dialogue. Mais si la personne dit « Non, non, je veux que tu me coaches », ça veut dire qu'elle s'engage à dialoguer, elle s'engage à s'ouvrir. Et là, ce que je dois apprendre, c'est beaucoup plus à donner un environnement où la personne va s'ouvrir. Il faut que j'apprenne à vivre avec le silence, il faut que j'apprenne à vivre avec l'attente. Si je fais du coaching avec trois personnes en même temps, on est trois ou quatre, il faut que j'enseigne au groupe à laisser l'espace pour que l'huître s'ouvre. Puis c'est bien, c'est correct de faire ça, parce qu'effectivement, l'apprendre tout seul, c'est pas évident. Je ne sais pas si ça aide un petit peu. Oui. Toi, tu en as eu des huîtres? On ne les nommera pas, mais tu en as eu.
Juste comme les filles que je compte sont assises à côté de moi. Faut que je m'entende. Mais moi, je dirais que tu te souviens que c'est le coach, c'est Saint-Esprit. Parce que quand tu as des huîtres, tu as le goût de forcer et d'ouvrir.
Oui.
Puis ça devient vraiment un œuf de l'homme. Moi, je me suis retrouvée dans le situation, parce que j'avais juste le goût de forcer. Puis quand j'ai comme compris que c'était l'esprit qui était le coach, ben assez droit. C'est comme...
Ouais.
C'est à moi aussi à apprendre à laisser l'esprit.
Fait qu'à travers la relation, il y a un dialogue qui s'installe quand même. Puis ce que j'apprends à essayer, ce que j'essaie de discerner, c'est est-ce que la personne résiste à l'œuvre de Dieu ou la personne a de la difficulté à s'ouvrir? Puis c'est sûr qu'au départ, on peut dire, mais comment tu fais pour savoir ça? C'est pour ça qu'on ne fait pas du coaching, c'est pas aller prendre un café ensemble deux fois par année. C'est une relation qui s'installe. On a eu des discussions. Puis si je sens que la personne résiste à Dieu, ça ne veut pas dire que je vais forcer. Mais dans mon esprit, c'est pas la même chose. Justement, ça se peut qu'à un moment donné, je dise, regarde, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on discute. Je sens que tu n'es pas prêt à en parler. Je me prends une note, puis on s'en reparle plus tard. C'est tout. D'accord? Mais fait que dans le dialogue, j'essaie de voir, est-ce que c'est un moment où je dois laisser le silence s'installer pour que la personne s'ouvre, Ou si je continue à faire ça, je suis juste en train comme d'y faire violence, tu sais, parce que la personne n'est pas prête à le faire. Fait que c'est un dialogue qui s'installe. On apprend à écouter l'autre. Donc ça, c'était la confession. C'est ça. Le temps de prière ne sert pas à enseigner comment prier, comment vous organiser votre vie de prière, mais ce sera quelque chose à discuter dans le coaching. Partager, c'est comment vous priez. Puis expliquer comment vous fonctionnez, puis comment vous grandissez dans la prière. D'accord? On pense, on présume que les gens, ça va, ils prient, mais combien de personnes vraiment intercèdent, prient pour des missionnaires, prient pour leur famille, prient pour des collègues de travail, gardent des requêtes, des questions qu'ils ont devant Dieu, puis les inscrivent, puis avancent tranquillement avec Dieu là-dedans. Combien de personnes savent faire ça, savent garder une prière qui est là devant Dieu longtemps, pendant des mois, puis je la garde cette prière-là, je continue, j'attends le Seigneur. Fait que, il faut pouvoir enseigner aussi sur la prière, comment vous priez, comment vous fonctionnez dans la prière. C'est pas le temps de la prière, par contre. Fait que vous préparez, à un moment donné, dans des rencontres, vous dites, OK, cette fois-ci, on va parler de la prière ensemble. Comment tu pries? Comment tu organises ta vie de prière? Comment tu intercèdes? La prière, c'est beaucoup de choses, là. C'est la louange, l'adoration, l'intercession, la confession. C'est beaucoup de choses, la prière. C'est, à quelque part, l'attente aussi. Prendre des nouvelles de sa relation avec Dieu. Comment ça fonctionne? Fait que je veux deux choses quand je suis en train de faire ça. Comment tu structures ton temps avec Dieu? Comment Dieu te parle à travers sa parole? Comment est-ce que tu grandis dans ta connaissance de Dieu à travers ton temps avec Dieu? Puis l'autre chose que je cherche, c'est qu'est-ce que Dieu dit actuellement? Comment Dieu te parle? Qu'est-ce qu'il te dit de ce temps-ci? Qu'est-ce qu'il adresse dans ta vie? Puis comment est-ce que tu le vois revenir? D'accord? Puis quand je dis ça, c'est pas, j'ai pas une, je l'ai déjà dit ailleurs, là, mais c'est pas que j'ai une vision que Dieu comme souligne des versets puis les sort de leur contexte, d'accord? Quand Dieu me parle de manière particulière à travers sa parole, le verset est toujours dans son contexte. C'est pas, je sors pas ça du contexte. Mais des fois, tu es en train de lire puis tu as une conviction profonde que Dieu est vraiment en train de t'interpeller parce qu'il y a une situation, puis ce passage-là parle de quelque chose qui est connexe puis ça fait une impression. Jonathan Edwards parlait de ça, spiritual impression. Il y a une impression forte sur ton cœur que Dieu est en train de te parler, soit de t'encourager, soit de te confronter. Et puis, je veux que les gens que je coach soient capables de répondre tranquillement à cette question-là. De quoi Dieu te parle actuellement? Qu'est-ce que Dieu est en train d'adresser? Puis, on va devoir s'arrêter ici. On va compléter ça la semaine prochaine. Oui, on termine ça la semaine prochaine. C'est bon? On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, merci pour ce temps ensemble. Merci pour les excellentes questions, Seigneur. Ça a l'air très, très, très simple, tout ça, mais dans le fond, on a tous besoin d'apprendre, Seigneur. J'ai besoin d'apprendre, Seigneur. Je te prie, Père, d'encourager les gens qui prennent le cours à considérer sérieusement de s'investir dans la formation de disciples. Pas simplement à suivre ce cours pour comme une information, mais à considérer devant toi dans la prière, Seigneur. Soit être coaché eux-mêmes, soit faire du coaching. Enseigne-nous, Seigneur, à s'accompagner les uns des autres, parce qu'en fin de compte, c'est ça. Enseigne-nous à s'accompagner les uns des autres dans notre croissance spirituelle. Et à être des conseillers, des aides, des amis, des enseignants, des oreilles, Seigneur, pour pouvoir te ressembler de plus en plus. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen, merci. Alors, si jamais vous venez de vous joindre au cours, vous pouvez trouver toutes les pistes audio sur le site web. Et vous pouvez vous inscrire aussi à la liste d'envoi. Simplement envoyez un courriel au secrétariat de l'Église. On va vous ajouter, puis vous allez recevoir les notes. Merci.